Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Fassions une brève lecture, c'est une des plus petites paraboles que nous avons dans notre Bible au chapitre 13 et au verset 33. Écoutez bien, Matthieu chapitre 13, verset 33. Jésus leur dit cette autre parabole, parce que c'est une suite où il va donner sept paraboles différentes. Il leur dit cette autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Alors il y a un processus que vous connaissez, il faut ajouter cette molécule, on peut peut-être dire cela, qui est le levain. À un moment donné, vous laissez reposer, vous pétrissez, et puis vous allez vous apercevoir que quand ça va cuire, eh bien, ça va monter, tout simplement. Il va y avoir, un phénomène tout à fait particulier. Et avant de commencer notre petite réflexion sur ce que Jésus nous enseigne, parce que je crois que Jésus avait l'habitude d'observer de son temps, les usages. Dans bien des domaines, il nous parlera des bergers, il nous parlera des pêcheurs sur le bord de la mer, il nous parlera de cultivateurs, du semeur, etc. Mais cette fois-ci, il va nous parler d'une femme, de toutes les femmes, qui à une certaine époque, faisait le pain tout simplement à domicile. Et à travers cela, j'aimerais situer un peu ce que c'est, vous allez comprendre parce que vous le savez déjà, mais dans la profession de la boulangerie, on utilise de la levure. Ça, c'est pas naturellement, quelque chose de secret. Et souvent, dans ces milieux-là, on l'appelle tout simplement dynamite. Eh oui. Ça vient du grec dynamis, explosion, qui, véritablement, va produire quelque chose qui va, détonner, on peut dire. Dynamite, dans le langage de la boulangerie. Alors le levain, c'est tout simplement un micro-organisme qui est d'abord naturel et qui est vivant. Et le levain est indispensable pour faire lever la pâte. Autrement, on n'aurait que des galettes, tout simplement. Ça serait ce que je vous ai montré tout à l'heure. Dans cet élément unicellulaire, parce que c'est très simple, se trouve une véritable usine. Ouais, on peut parler de ça, ça peut être choquant, mais il y a là tout un processus assez étonnant au pouvoir de transformation inouïe. D'une chose qui est plate, elle va prendre du volume, elle va enfler, elle va gonfler. Et malgré cela, l'infime quantité de levure. Il nous est donné la proportion, nous en reparlerons d'ici quelques instants, il nous est dit du levain, un peu de levain, dans 10 mesures ou dans 3 mesures, plutôt 3 mesures, de farine. C'est-à-dire que vous pouvez vous imaginer qu'il y a finalement une quantité très importante de farine avec une petite pincée de levain. Et nous voyons que cette infime quantité ajoutée à la farine va être complètement absorbée par la masse. Voilà, on ne sait plus où il est le levain. On sait où encore est la farine parce qu'elle est là devant nous, on la voit. Mais le levain va devenir invisible et il permet de donner à la pâte, tout simplement, de l'ampleur et du volume, c'est ce que nous disions tout à l'heure, mais aussi de l'homogénéité. Et un bon pain, c'est un pain qui est homogène, qui a cette élasticité, parce qu'autrement, quand il va devenir rassis, mais ça c'est le temps qui fait son œuvre, de la consistance, de la saveur, et même, après la cuisson, une belle couleur dorée. Alors, vous allez vous précipiter chez le boulanger, après le message, et vous allez voir comment ça se passe. Puis après, vous mettrez à table et vous me direz des nouvelles. Oui, c'est bon le pain. Vous savez que ça a été la nourriture de beaucoup de peuples pendant des siècles et des siècles. On commence à manger moins de pain, mais on essaie peut-être de chercher davantage la qualité du pain. Hein. Un bon pain, vous savez, ça fait manger, c'est quand même très agréable. Alors, dans ce que nous pourrions dire, cette micro-parabole, parce que c'est ça, hein, elle a un sens profond. Pourquoi Jésus nous a-t-il parlé ainsi ? Il nous dit, et il fait la comparaison, et ça c'est important, il va faire la comparaison avec le royaume des cieux. Le royaume des cieux, celui qui est dans le ciel, celui où règne Dieu. Et il va nous en parler sur la terre, à nous, des hommes, qui sommes finalement, eh bien, des hommes de ce bas monde. Et il va dire, mais elle est semblable. Si vous voulez une ressemblance, une similitude pour bien comprendre le processus de la levure, eh bien, essayez de vous imaginer ce que peut être le royaume des cieux, et avec cette image tellement habituelle hein, dans notre monde. Mélangé à du levain, ensuite, il est question d'une femme qui intervient. Une femme qui intervient parce que du temps de Jésus, c'était les femmes. Ça, c'était le travail de la femme de faire le pain. Et avec 3 mesures de farine. Je me suis laissé dire dans les commentaires que j'ai regardés, 3 mesures de farine, c'est pour finalement beaucoup de monde. Hein. Ça représente. Hein. Alors, si vous avez une carte des mesures dans votre Bible, vous pourrez vous imaginer un peu ce que ça veut dire, ce que ça veut faire, ce que ça peut faire en tous les cas. Moi, j'aimerais justement vous parler du royaume des cieux et ses effets mondiaux, finalement, parmi les hommes. Royaume des cieux, royaume de Dieu, comment ça se passe? Comment ça se fait? Et vous verrez que Jésus, dans tout ce chapitre 13, nous parle du royaume de Dieu, du royaume des cieux, et là, il nous donne une bonne idée. Et les implications ou les résultats que ça peut avoir avec, ce que je pourrais dire, une amplification insoupçonnée. Parce que quand Jésus est venu avec un message révolutionnaire, avec un message qui change la vie, qui transforme les êtres, qui peut transformer le monde, qui peut transformer les nations aussi, eh bien c'est véritablement le levain de l'évangile. Et ce processus, eh bien il peut être quelque part reconnaissable dans ses effets autour de nous. D'abord, c'est un travail qui échappe au regard. La levure, elle va disparaître, hein, tout simplement. Le levain est invisible. Enfin, il va devenir invisible. Et vous savez qu'un jour, les apôtres sont venus vers Jésus et lui ont posé cette question. Ils lui ont dit, mais quand est-ce que le jour de ton avènement? Et vous savez ce que Jésus va répondre? Il va dire, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. C'est quelque chose qui se fait dans l'invisibilité du monde. Et moi, je voudrais vous dire, si ça peut vous rassurer, vous, quelquefois, qui vous inquiétez du devenir du christianisme, de la foi. Moi, je vous dis que Dieu travaille dans son Église, mais il travaille 10 fois plus dans le monde sans que nous nous apercevions. Autrement, je ne serais pas là aujourd'hui parce que je suis pas né dans une Église. J'ai découvert l'Évangile dans une Église, mais le terrain était préparé. Mon cœur était déjà préparé. Et il travaille. Il travaille auprès de tous les peuples, dans toutes les religions, dans toutes les confessions, auprès des uns et des autres. Mais Dieu fait son œuvre et c'est une œuvre de l'Esprit. Et ça, c'est important de le savoir parce que on pourrait se lamenter en disant « Mais nous sommes si peu dans nos églises. Il y a des églises qui grandissent, mais il y en a beaucoup qui se vident. Mais Seigneur, et pourtant Dieu nous a dit, tu es là, tu vas faire ton œuvre ici, cette œuvre que je te demande, elle sera ici. » Voilà. Alors, ne cherchons pas la quantité, mais regardons à la qualité. Parce que Dieu est toujours à l'œuvre. Maintenant, le boulanger peut se décourager. Boulanger que nous sommes, hein, on peut se décourager. Ceci dit, donc, il est invisible. J'aimerais dire un mot de la place et du rôle de la femme dans l'Antiquité du temps de Jésus, la femme d'hier. Je l'ai souligné tout à l'heure, elle était affectée aux tâches domestiques. Son rôle essentiel, eh bien, c'était la sphère domestique, la sphère tout simplement privée, familiale, s'occuper du mari, s'occuper des enfants, s'occuper de tous les soins nécessaires. Et vous savez, je voudrais dire que il y avait, et il y a encore pour la femme, beaucoup de travail, un travail qui n'est ni reconnu ni valorisé. Et ça, c'était les conditions. Vous savez que Jésus est l'évangile de Marc. Vous pouvez vous en souvenir, j'arrive toujours, a écrit son évangile particulièrement pour la libération des femmes. Hein. Alors, mesdames, vous allez être contents de ce que je vous dis. Mais toujours est-il qu'il y avait une place bien distincte dans l'Antiquité et on voit que Jésus véritablement a fait une œuvre d'affranchissement. Alors, elle avait beaucoup de travail, hein, et ça c'est sûr. Et peut-être que vous pourrez dire que les femmes d'aujourd'hui ont beaucoup de travail parce qu'elles ont la maison plus le travail à l'extérieur. Mais bon, ça c'est pas notre propos. On définit souvent les hommes par leur profession. Vous verrez que les femmes, c'est pas pareil dans la Bible. Dans la Bible, par exemple, Joseph, on le reconnaît parce qu'il est charpentier. Donc, il porte un nom, mais le nom de son métier. Joseph le charpentier. Matthieu est percepteur d'impôts. On le connaît parce qu'il nous est dit qu'il était percepteur d'impôts. Zachée de même. Simon-Pierre, il est pêcheur. Je mets la comparaison, hein. Quant aux femmes, il semblerait qu'elles demeurent dans l'ombre de leur état et de leur famille. Elles sont femmes à la maison, elles sont femmes pour les enfants, elles sont femmes pour leur mari. Ça, c'est leur état. Et quand on cite des noms de femmes, on parle toujours de Marie, mère de Jos. On cite son nom Marie parce qu'elle est la maman de Jos. C'est son fils, finalement, qui... Et, par exemple, on parle et on donne un nom aux femmes, non pas pour leur travail, mais là où elles demeurent. Quand nous avons, par exemple, devant les yeux, il est question tout simplement, là où elles habitent, Marie de Magdala. C'est parce qu'elle est à Magdala que, comprenez, le rapport est là. Hein. Ça, c'était le monde ancien. Alors, pourtant, leur travail, dans cette image, est de mettre du levain dans la pâte, on peut dire cela, et de pétrir jusqu'à ce que cette même pâte soit levée. C'est un geste ancestral. C'est un geste ordinaire et quotidien depuis des siècles et des siècles. J'ai voulu donner une petite introduction pour montrer que les temps ont changé aujourd'hui. Hein. Les temps ont changé parce que, bon, le commerce et puis les nécessités de la vie quotidienne sont tout à fait différentes. Jésus donc observe ce geste. C'est pour ça qu'il nous en parle. Il va bien l'observer. Il l'avait certainement observé dans sa propre maison avec Marie, sa mère. Et il va le comparer au royaume de Dieu, un peu de levure que l'on conservait précieusement et proportionnellement dans une grande quantité de farine utilisée. Trois mesures, ça équivalait, d'après les renseignements que j'ai pu avoir, eh bien du pain pour plusieurs dizaines de personnes, imaginez-vous. Hein. Voilà, je ne vois pas l'évaluation parce que nous ne sommes plus dans ce contexte, mais on faisait du pain pour 8 jours. Hein. On faisait du pain pour plus de temps encore, et c'était des familles nombreuses. Donc, un peu de levain avec une grande masse de pâte, de farine. À remarquer le contraste, hein, qui est étonnant, il faut bien le remarquer, entre la petitesse du levain invisible comparé à la masse de farine nécessaire. Et cela nous ramène à toutes ces petites paraboles qui sont un peu dispersées dans la Bible, mais qui aussi, eh bien, précède celle que nous avons lue, quand il est parlé du grain de sénevé, qui finalement va devenir un grand légume, et de cette petite graine que l'on peut trouver, à l'image par exemple d'un gland, et qui va devenir un chêne tutélaire. Et c'est toujours ces proportions, et ça je crois qu'il faut garder à l'esprit les uns et les autres, que dans les enseignements de Jésus, le royaume de Dieu est toujours infime, petit, invisible, insignifiant, et il va remplir le monde et remplir la terre. Nous, nous voulons du grand, parce que nous sommes dans une société de gigantisme. Et même les chrétiens, même les pasteurs veulent voir grand. Eh bien écoutez, c'est se tromper, parce que tout l'enseignement qui nous est donné, surtout dans les enseignements de Jésus, ça commence petit, ça commence infime, ça commence rien du tout, c'est insignifiant et ça devient grand. La petite pierre de Daniel, qui est lancée au pied de la statue de Nebuchadnezzar, elle nous dit que cette petite pierre venue dont on ne sait où, une petite pierre de rien du tout, va écrouler les empires mondiaux et va remplir la terre et le ciel. On est bien d'accord, la levure. C'est la proportion, hein. Et j'insiste sur ça parce que vous allez voir les développements dans notre monde. D'ailleurs, je voudrais simplement dire que ce petit évangile, excusez-moi pour le peu, hein, ce petit évangile de rien du tout qui a émergé il y a 2000 ans à travers un homme qui s'appelle Jésus, 12 disciples, hein, ensuite 120 à la chambre haute, 4000 ou 5000 là au moment de l'évangile que Paul nous rapporte. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Non, qu'est-ce qu'il a produit? Il a produit des millions et des millions et des millions, voire des milliards de chrétiens à travers tous les temps. Ça ne semble rien, mais c'est ça. Et si nous attendons qu'une vision de notre Église pour dire, eh bien voilà, eh bien, il semblerait que le levain n'a pas levé, nous faisons erreur et nous nous trompons parce que la moindre chose que vous fassiez, le témoignage que vous rendez, s'il est rendu naturellement, avec sagesse et dans la conduite de l'esprit, porte son fruit. C'est une affaire de temps. Comme la pâte doit se lever. Je crois qu'il faut attendre 3-4 heures avant qu'elle soit levée. Ben voilà. Et elle est pétrie par intermittence, etc., etc. Et à un moment donné, vous avez véritablement quelque chose qui va prendre du volume. C'est notre réflexion ce matin. C'est important. Alors, le levain, dans la Bible, nous est proposé sous les deux sens. Dans deux significations particulières, il y a le levain au sens positif, qui est l'emblème du bon et du bien de l'Évangile, c'est celui dont nous allons parler ce matin. C'est le levain qui est mis dans la pâte, et la pâte va enfler et devenir véritablement, eh bien, là quelque chose d'énorme, pourrions dire. Et il y a également des propos sur le levain qui a une connotation de péché et de mal. Quand il nous est dit dans Galates, je crois, que finalement, eh bien, un peu de levain fait lever toute la pâte, quand Paul parle de ça, il parle du mal. Et moi, je ne vais pas vous parler du mal, je vais vous parler de ce qui est positif ce matin. Hein? Un peu de levain fait lever toute la pâte, le levain de la jalousie, le levain de la querelle, le levain de la dispute, le levain de la haine, le levain de la convoitise, le levain de l'égoïsme. Et c'est pas de celui-ci que je vais vous parler, il y a les deux. Il y a un levain toxique qui doit être éliminé. Mais il y a aussi le levain, le bon levain. Alors, la pâte ainsi travaillée absorbe, et ça c'est un spécialiste qui pourrait le dire, absorbe chaque particule de farine de levure par le pétrissage. Il faut absolument que ça tout soit imprégné. Il n'y a rien qui est oublié. C'est pour ça que ça prend du temps. C'est pour ça qu'il y a des heures. Parce que cette petite levure que vous avez mise, elle va disparaître, mais il faut qu'elle s'imprègne partout. Imaginez-vous que vous achetiez une baguette hein, et qu'elle soit à un moment donné à moitié très grosse et l'autre très fine. Vous avez l'air de boulanger, là, il y a quelque chose qui ne va pas, il a dû s'endormir. Hein. Non, non, il faut que c'est pour ça qu'il y a le brassage. C'est pour ça qu'il y a, comme on pourrait dire, la mastication. Voilà, on peut, bien que ce soit pas tout à fait le mot approprié, mais pour nous montrer qu'il faut que ça rentre dans toutes les dimensions. Voilà, le pétrissage. Le royaume de Dieu nous rappelle que son message, parce que ça, on peut parler de levain, le message du royaume de Dieu, eh bien, c'est quelque chose qui doit nous rappeler finalement le processus. Ce matin, nous sommes en train de pétrir la pâte. Si je peux me dire, c'est pas seulement pour l'évangélisation, mais c'est aussi pour votre édification, pour que vous puissiez vous construire dans votre vie spirituelle et développer votre foi. Donc nous sommes en travail là pour l'instant. Je ne sais pas si je ne vais pas vous garder jusqu'à 17 heures afin que ça soit bien cuit. Hein. Ça va? Bah, prenez le travail demain matin, vous avez le temps, c'est pas grave, on y passera la nuit pour faire du bon pain. D'accord? Mais pour dire que quelque part, pour rappeler ça, eh bien, ce message que nous entendons, à chaque fois que nous entendons un message de Jésus, que nous entendons Jésus à l'œuvre, dans ce qu'il est capable de faire, l'action du Saint-Esprit, eh bien, nous rappelle qu'il y a un levain dans cette pâte. Et ça va se faire à votre insu, quelque part. Vous allez entendre, vous allez retenir une partie, vous allez réfléchir, demain vous y penserez encore, le Saint-Esprit vous y ramènera. Et c'est comme ça que vous allez finalement grandir. Vous allez prendre de l'importance, en quelque sorte. Pas dans votre vie personnelle, mais dans votre vie intérieure. Donc son message ne laisse, dans le temps ou dans l'espace de l'histoire du monde, parce que ce n'est pas question de l'Église seulement, mais l'histoire du monde, jamais rien de côté ou d'oublié. C'est pour ça que c'est bien retourner, tels que ces principes essentiels, issus du message et véhiculés par le message, tels que la justice, ou la paix, ou l'amour, ou la conversion des âmes, ou le pardon, ou le salut. L'œuvre du Saint-Esprit est en tout et partout. Nous, nous sommes des enfants de la Pentecôte, et nous croyons qu'il y a un accompagnateur, il y a véritablement un avocat, ce qu'on appelle le paraclète, qu'il y a dans la prédication même de ce type même d'église charismatique, eh bien, il y a une action silencieuse, invisible du Saint-Esprit, mais il se fait partout et en tout. Quand vous distribuez un traité, un journal ou un prospectus, vous ne savez où va. Jette ton pain à la surface des eaux avec le temps, tu le retrouveras. Vous allez me dire, mais c'est pas ça. Mais si, c'est ça. Lorsque vous parlez à votre voisin ou votre voisine, à un membre de la famille, et que vous lui parlez parce que elle vient vers vous et qu'elle se trouve dans une détresse, et que vous lui dites un mot de Jésus, une espérance, un espoir en Jésus, mais le levain a commencé à travailler. Il a commencé à travailler. Vous vous attendez à ce que le pain soit cuit tout de suite? Eh bien, vous pouvez attendre des mois, vous pouvez peut-être attendre des années. Mais c'est pas notre attente qui est important. C'est pour que ces gens, ces hommes et ces femmes rentrent dans le royaume de Dieu au moment où Dieu, eh bien, va les rappeler et qu'à ce moment-là, eh bien, ils seront prêts pour accepter Jésus comme leur sauveur personnel. L'œuvre du levain. Tout simplement. Rien n'est oublié. Dieu est omniprésent, nous dit la Bible. Il est immanent et il est transcendant. Ce sont des mots de théologie. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Il est dedans, il est partout. La signification pour dire que rien, aucun lieu, ni même aucune personne n'est trop corrompu. Ah, ça peut me choquer, hein. Inconnu, étrangère ou inaccessible, le levain, c'est le Saint-Esprit qui agit, qui nous fait lever pour répondre à son appel. Eh oui. Ne soyons pas comme les pharisiens qui dédaignaient à aller dans le monde, même sur les places publiques, et qui se lavaient les mains, qui se lavaient en rentrant, qui faisaient leurs ablutions en disant « Mais ce sont des souillés tous ces gens-là !» Mais moi, je suis pur. Moi, je suis bien, vous comprenez. Je suis pharisien. Et quelquefois, il ne faut pas avoir cette tendance, hein, nous, dans les églises. Je sais que ça a été un petit peu, quelque part, marqué. Mais le Seigneur ne nous demande pas de nous ôter du monde. Il nous demande d'être dans le monde, mais pas comme le monde, mais d'apporter le levain que nous pouvons représenter à travers la parole et le message que nous avons à lui donner. Ah oui, maintenant, moi, je ne me mélange pas avec tout le monde, hein, parce que, mais je suis un homme comme les autres, et avant d'être ce que je suis aujourd'hui, j'étais comme eux. Et heureusement qu'il y en a qui se sont mesurés peut-être avec moi, qui se m'ont approché, et ils n'ont pas été contaminés, hein, je peux vous le dire. Ils n'ont pas attrapé Ebola, hein, en me fréquentant, hein. Eh bien, parce que justement, aujourd'hui, c'est la même chose. Mes frères et sœurs, notre travail, il est peut-être de prier dans l'église, de louer le Seigneur, de servir le Seigneur, certainement dans l'église, mais il faut aller aussi à l'extérieur parce qu'ils nous attendent. Nous avons du levain à donner. Et il y a tant de malheureux, nous attendons que le monde soit encore pire. Nous attendons que le monde soit encore dans un état plus pitoyable qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Ça, c'est important. Et il ne faut pas l'oublier. On n'est pas des pharisiens. Pour Dieu, le monde entier est toujours en tout temps atteignable, je veux dire. Ah oui, il est convertissable. Quel que soit son état ou condition, qu'il soit impur, méprisable ou bas tombé, le Seigneur travaille. Jésus est mort pour les hommes du monde entier, nous dit la Bible. C'est Paul qui le souligne. Regardez comment Jésus fait, si nous avons quelques exemples à tirer. La femme à la perte de sang, cette femme qui était réputée religieusement impure, parce qu'elle était malade depuis 12 ans. Elle s'est laissée toucher par Jésus. Hein. Jésus, quand il l'a vue, il s'est pas dit, attention, hein, c'est quelque chose. Non, pas du tout. Il lui a donné une parole de délivrance, elle a été guérie immédiatement. Elle avait la foi pour être guérie. Et la foi pour être sauvée. Va, ma fille, ta foi t'a sauvée. Regardez la femme adultère. Jésus, tout simplement, s'est même accroupi à ses pieds pour écrire sur la terre. Alors que tout le monde voulait la faire mourir, qui commençait à, vous savez, comme les boules de pétanque, à cogner les pierres les unes contre les autres avant de lui mettre sur la tête. Miséricorde de Dieu, Dieu avait un levain, un bon levain pour cette femme, qui était certes, certainement dans une condition de souillure intérieure, dans son âme, dans sa pensée, dans son corps. Mais Jésus ne l'a pas rejeté. Zachée, notre brave Zachée qui monte dans les arbres. Quand Jésus l'appelle, il va descendre avec joie pour lui offrir sa maison, vous rendre compte, recevoir Jésus chez lui. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? La Samaritaine, avec sa vie tumultueuse, avec ses maris qui se succèdent et il n'y en a jamais un qui reste. Voilà. Jésus va lui parler, il va lui faire même une révélation. Il va lui dire, mais je suis le Fils de Dieu. Ouais. Je suis le Fils de Dieu. Elle était pas très bien, cette femme. Et puis nous avons un cas d'extrême. Si nous voulons aller plus loin, nous avons deux cas d'extrême. Un homme et une femme. Nous avons le gadarénien. Un homme, il est fou. C'est un hystérique. C'est plus que ça, c'est un diabolique. Ouais. Eh ben, Jésus va finalement, eh bien, le délivrer. Il va recevoir le levain de la parole de Jésus pour sa délivrance. Comment dire? comment dire, sa libération de toutes ces forces diaboliques et sataniques qui étaient en lui. Marie-Madeleine, femme qui était là, tenue par sept démons. Pareil. Ah oui. Ben, si nous allons vers que les gens qui sont bien comme nous pensons que nous le sommes, ben, on va pas voir grand monde, hein. Ouais, le levain fait son œuvre. Le levain fait son œuvre. Le pain qui rassit, ça vous arrive? Faut se dépêcher de le manger, hein. Le pain qui rassit et qui est délaissé. Eh bien, vous savez ce qui se produit? C'est qu'il fait des miettes. Mais il y a une belle histoire aussi dans la Bible, et précisément avec la Cananéenne. Précisément avec cette femme que nous avons aussi dans l'histoire. C'est que, on va apprendre par cette femme avec une grande humilité, mais surtout une foi débordante, que finalement les miettes, ils sont pour tout le monde. Si on ne veut pas manger à la table du maître, eh bien les maîtres ont des petits chiens, mais les petits chiens mangent la table du maître. Et ces miettes, elles contiennent aussi de la levure. Elles contiennent du levain. Et ces miettes, c'est l'image de la guérison, c'est l'image de la plénitude de la vie, c'est l'image du bonheur, de la paix que nous pouvons avoir avec le Christ, avec Jésus. Oui. Les miettes, même les miettes. Le levain contient un principe chimique, je l'ai dit tout à l'heure, actif. Et chimique, naturel, actif, pour produire ce qu'on appelle la fermentation d'une masse inerte de farine. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il engendre la vie. Ouais. Il va donner le goût. Et il va donner également la saveur, goût et saveur, c'est la même chose. Et or, Jésus de cette image voit son œuvre non pas tant dans l'exclusivité de l'Église pour le servir, parce que s'il y a l'Église pour le servir, eh bien, peut-être qu'on va passer à côté de certaines choses. Tout le travail qui peut se passer dans une Église, il y a les cultes, il y a les réunions de prière, il y a le service ici, le service là, et toutes sortes de choses qui sont multipliées pour les enfants, pour les jeunes, pour les adolescents, toutes sortes de choses. Mais ce n'est pas seulement dans l'Église, et je reviens à cette pensée que notre travail et la levure, nous devons la mettre dans la masse. Nous devons la mettre pas seulement dans la masse de l'Église, parce que ça fait partie finalement de l'intérieur, mais qu'il y a quelque chose, que ce travail de cette Église, eh bien, est porté à l'extérieur, c'est-à-dire dans l'évangélisation du monde. Et c'est pourquoi le testament de travail, nous pourrions dire, l'ordre de mission, le mandat de mission de Jésus dans l'évangile de Marc et au chapitre 16, c'est aller partout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. C'est pas ceux de l'intérieur. Parce que je voudrais quand même dire que l'imposition des mains n'est pas faite pour l'intérieur, c'est l'onction d'huile pour les chrétiens qui sont malades. C'est l'onction d'huile, bibliquement c'est comme ça. L'enseignement, c'est pas l'onction, c'est pas l'imposition des mains, même s'il y en a certains et je le fais, parce que bon, je crois que c'est bien de prier, mais c'est autre chose. Mais une chose qui est certaine, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, à tel point qu'il y a eu confirmation à un moment donné, quand il nous est dit que les disciples allèrent partout le monde. Et il nous est dit que le Seigneur les accompagnait par des signes, des miracles et des prodiges. Si nous voulons voir des miracles, mais c'est pas le miracle qui nous intéresse. Non, non, c'est la conversion des gens. Et c'est le levain. Et le Seigneur va permettre, lui, nous, après avoir mis le levain dans la pâte, la parole de Dieu, le témoignage, que finalement le principe du Saint-Esprit, c'est de faire grossir, enfler, déborder, et de faire finalement, eh bien, qu'il y ait ce que nous appellerons tout à l'heure, parce que ce sera la conclusion, que les hommes, les femmes, les hommes de tous les temps puissent partager le pain de vie. Ça vous rappelle quelque chose? Jean chapitre 6. Je suis le pain de vie. Pas le pain de la vie, je suis le pain de vie. Et nous aurons contribué à l'œuvre de Dieu. Ce levain missionnaire qui pousse des hommes à aller jusqu'aux extrémités de la terre, en parole et en témoignage de vie actif, qui donne de la saveur à cause du sel, et qui nous sommes des projecteurs de lumière, parce que Jésus nous a dit que nous sommes aussi le sel de la terre et la lumière du monde, hein, il ne faut pas l'oublier. Toutes les occasions où chacun d'entre nous, alors que nous sommes des porteurs de levain, peut collaborer avec Dieu, faire connaître son message à un monde en désespérance. Eh oui, autrement le monde va rester plat, comme le pain azyme, vous comprenez? Desséché, parce que bon, on ne peut pas dire qu'il est... Ouais, comme le pain azyme. Mais il veut que véritablement son évangile, que sa parole, non pas pour nous glorifier nous-mêmes, ce que nous sommes en tant qu'Église ou même responsable d'Église, mais que Christ soit connu et que son nom soit honoré, adoré et accepté. Oui. Si nous ne faisons que du pain azyme, s'il n'y a pas de levain dedans, c'est un peu fade, hein, le pain azyme. Hein. Oui, il y en a qui le mangent pour des raisons de santé, c'est vrai. Hein. Mais moi, je préfère un bon sandwich. C'est extraordinaire. Ça va? Vous pouvez attendre encore deux, trois heures, là? Ça va? Bon. Alors, oui, c'est ça, hein, le travail. Le levain de la vie, tout simplement. Le levain du salut travaille sans bruit et produit son effet au fond des cœurs et sans besoin et de savoir nous ce qui s'y passe. Laissons Dieu faire. Dieu va chercher loin et en profondeur. Oui, des hommes perdus. Des hommes qui sont à l'extérieur, des hommes et des femmes. Et j'aimerais que nous parlions de quelques noms que nous remarquons dans la généalogie qui va d'Abraham à la naissance de Jésus. Vous connaissez, il y a deux généalogies. Il y a celle de Matthieu et il y a celle de Luc. C'est pas forcément ce que l'on lit le plus, hein, parce que ce sont des noms qui succèdent. Je crois que dans l'un, ça commence par Adam et ça finit par Jésus, et puis l'autre, ça commence par Abraham et ça finit par Jésus. Oui. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais là, il y a une belle leçon sur le levain. Oui. Pour vous dire tout simplement que dans la longue liste d'hommes illustres, d'hommes de foi, hommes de la Bible, apparaît des noms féminins étonnants. Il n'y en a pas beaucoup. Parmi cette longue liste, eh bien, Dieu a voulu, comme Jésus nous dit, le levain. Vous savez, cette femme qui met le levain dans la pâte. Nous en parler un peu. Comme une femme a pris et mis dans la pâte le levain. Et on ne parle pas dans la généalogie, dont je vous cite, hein, on ne parle pas de Sarah. Non, on ne parle pas de Sarah. On ne parle pas de Rebecca. On ne parle pas de Déborah. C'est curieux tout cela, hein. Pourtant c'était des femmes les plus illustres de la Bible. Et d'autres connues naturellement. Mais par contre, on relève, figurez-vous, le nom d'une Tamar. Ah, ça vous dit peut-être pas grand-chose. Hein. D'une Rahab, dans la généalogie. Le nom d'une Ruth. Le nom d'une Bathsheba. Vous pourrez vérifier, hein. Et on finit par Marie, la mère de Jésus. C'est curieux, ça. Ah, vous savez que depuis les temps de toujours, les temps immémoriaux, Dieu avait déjà sa petite pincée de levure pour sauver l'humanité, vous savez? Ah oui. Il voyait bien que cette pâte avait été corrompue. Cette pâte humaine, cette argile humaine qui retourne à la poussière parce qu'il n'est fait que de poussière. Mais Dieu, déjà, au fond de sa poche, si vous permettez, avait déjà la levure. Eh oui. Et il l'a mis. Il l'a mis sur des hommes, ça c'est sûr. Hein. Beaucoup. Mais il y avait aussi ces femmes qui prennent une mesure de farine et qui la mettent dans la pâte. Et elles apparaissent, je vous ai cité les noms, on va en dire deux mots, quelques brièvement, tout simplement. Et quand on s'aperçoit que le levain divin a imprégné la pâte de l'histoire du salut, si je peux résumer les choses de cette manière, on va commencer par Tamar, brièvement. Tamar est une femme, elle est veuve. Pas de sa faute, elle s'est mariée trois fois, les trois fois, ses maris sont morts. Enfin, ça fait quand même beaucoup, non? Le quatrième, il a dû dire, moi, je renonce. Voilà, veuve trois fois. Figurez-vous, elle était ni vierge et ni mère, parce que c'était bien son problème. Et c'est elle qui, à un moment ou à un autre, cette Tamar de la Bible, va décider, poussée par la colère et le désespoir, de se déguiser en prostituée. Vous savez que j'ai fait un message là-dessus il y a 5-6 ans, on l'avait partagé. Alors relisez, c'est une histoire assez particulière. Elle va se déguiser en prostituée et ainsi, pour confondre l'hypocrisie et la lâcheté de Judas, qui était son beau-père, et qui était un homme parjure. C'est tout, je peux pas rentrer dans les détails. Hein. Mais elle est citée dans la généalogie qui va d'Abraham à Jésus. Pourquoi Dieu a-t-il permis finalement qu'une femme avec une réputation semblable, et vous allez voir, il y a pire, une réputation semblable, son nom soit inscrit pour l'éternité dans l'histoire du salut des âmes. Eh oui. C'était la femme qui avait du levain aussi. Hein. Elle typifie le levain de la justice. Le levain de la justice, tout simplement, parce qu'elle était bafouée par le genre masculin. Et c'était pas la première, et c'était pas la dernière, et ce sera peut-être pas la dernière. Mais Dieu est avec elle. Porteur d'un levain de justice. Parce que Dieu lui a fait justice à la fin de son histoire. C'est pas les hommes, hein, surtout pas. Il y a Rahab, par exemple. Rahab, c'est une païenne, mais alors vraiment profonde, de Canaan, qui habitait la ville de Jéricho. Elle, contrairement à la première, elle ne se déguise pas en prostituée, c'est une prostituée. C'en est une, notoire. Pourtant, elle va avoir le levain de la foi qui va la sauver de la mort, elle et sa famille. Dans l'histoire de Jéricho, vous connaissez hein, tout cela. Hein. Levain de la justice, levain de la foi. Ensuite, hein, nous avons cette plaisante Ruth, mais néanmoins, elle est quand même étrangère. Elle fait partie d'un peuple qui s'appelle Moab, Ruth la Moabite. Et c'est un ennemi d'Israël. Les Moabites sont des ennemis d'Israël. Et elle va recevoir un jour, dans des circonstances terribles, épouvantables, parce qu'elle va perdre son mari. Elle va véritablement être complètement démunie, cette pauvre Ruth, que j'appelle princesse d'Israël, parce qu'elle était étrangère, mais elle est devenue véritablement une grande figure féminine de l'histoire du peuple d'Israël. Et nous voyons que là, elle va recevoir un peu de levure. Oui. De la part du témoignage de sa belle-mère qui s'appelle Noami. Elle, l'étrangère. Elle, celle qu'on ne regarde pas. Elle, celle qu'on ne veut surtout pas en Israël. Et finalement, Dieu est en train de la préparer pour devenir une Israélite. Et avec la suite que vous connaissez, alors, cette bonne levure qui va enfler son cœur pour Dieu, c'est le levain de l'amour. Et quand on voit sa belle confession, quand sa belle-mère lui dira « Reste dans ton pays, tu vas te remarier avec un Moabite parce que tu es Moabite. Ne viens pas avec moi parce que tu vas pas être bien reçu dans notre pays. Les Juifs n'aiment pas les Moabites. » Elle dira « Quoi qu'il en soit, eh bien là où tu iras, j'irai. Là, ce que tu feras, je le ferai. Là où tu seras enterré, je serai aussi enterré. » Parce qu'elle aimait Dieu. Tout simplement. Le levain de l'amour de Dieu. Et puis il y a Bathsheba. Alors Bathsheba, comment je vais pouvoir vous en parler? Parce qu'on pourrait toujours dire Bathsheba, elle était à demi coupable. Enfin bon, avait-elle le choix devant le beau David? Mais en tous les cas, c'est une femme adultère. Et même si on ne l'a pas dit trop fort, parce qu'elle est devenue reine après, hein. C'était notoire. Hein. C'était un scandale tonitruant, et encore une fois, elle va illustrer quelque chose de formidable qu'elle a reçu de la part de Dieu, c'est le levain du pardon. Croyez pas que celui-ci il est le levain du pardon. David a reçu le pardon, mais elle aussi a été pardonnée. C'est vrai que ça leur a coûté cher, hein. Mais toujours est-il que elle nous parle de ce levain qui agit, elle devient l'ascendante de nombreux rois de Juda jusqu'à Jésus. Quatre femmes au bas de l'échelle, on peut dire cela, de l'échelle sociale, condamnées par la police des mœurs, je viens de vous le dire, ont pris et jeté, ont mélangé dans la pâte ou à la pâte un levain de vie. Elles étaient vouées au naufrage en raison de leur existence. Mais néanmoins, elles ont joué un rôle crucial dans la formidable histoire du salut présentée à travers le message de l'Évangile au cœur duquel se trouve Jésus-Christ. Quand Jésus nous dit, mais imaginez-vous que le royaume des cieux, eh bien c'est tout simplement eh bien une femme qui prend de la farine, elle la met dans la pâte, et puis finalement, eh bien voilà ce qui se passe. Oui, elle le met dans la pâte. Est-ce que nous pourrions être le levain? Est-ce que Dieu peut se servir de nous? Faut pas chercher à l'être. Faut tout simplement demander à Dieu qu'il puisse se servir de nous, tout simplement. Faut pas chercher à être ça. Hein. Mais de dire, Seigneur, mon cœur est ouvert, et mets cette levure de vie, finalement, pour que je puisse, là, dans ma famille. Oh, ça se passe toujours pas très bien dans la famille, hein, parce que pour ceux qui ne veulent pas entendre, ils n'entendent pas. Hein. Mais dans toutes sortes de choses. Mais avant de terminer, je voudrais pas qu'on oublie Marie la vertueuse. Contrairement, c'est pour ça que j'ai fait une petite séparation. Marie la vertueuse, qui est maman de Jésus, qui d'abord, à l'origine, naturellement, est une jeune fille prête à répondre à l'appel de Dieu, à l'appel d'en haut, et accomplir sa volonté. Que ta volonté soit faite. Je suis ta servante, dira-t-elle à un moment donné, dans ce que l'on peut appeler le Magnificat. Voilà. Levure divine, déjà par la conception surnaturelle de Jésus. Vous connaissez Matthieu chapitre 1er. Unie à l'humanité de Marie, Dieu qui s'unit avec cette humanité, donc Marie, qui donnera celui qui portera le glorieux nom de pain de vie. Et on y arrive. Le pain de vie, aux conséquences insoupçonnées pour ceux et celles qui prendront ou qui romperont cette nourriture spirituelle, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Qui est tout simplement, comme Jésus le dit, l'emblème du corps de Christ que nous célébrons à travers la scène, d'où découle la vie éternelle, où la Bible nous parle que c'est le pain des forts. Vous êtes faibles ce matin? Vous tremblez? Vous avez des problèmes, des difficultés? Prenez la Sainte Seine et glorifiez le Seigneur parce que vous allez trouver la force que vous n'avez pas. Vous êtes dans l'inquiétude, dans la maladie, dans toutes sortes de choses. Mangez du pain des forts! Ce pain a été élevé jusqu'à la croix, vous comprenez? Pour mourir pour chacun d'entre nous. Il y a un message spirituel, il y a un message évangélique derrière. Oui ou non, le Seigneur est-il avec moi ou contre moi? Il ne sera jamais contre nous, puisqu'il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Mais c'est à travers le Saint-Seine que nous pouvons avoir la délivrance, que nous pouvons avoir tant et tant de choses. Le pain de vie, ce pain qui a été élevé, bien sûr. Le pain de la consolation pour ceux qui pleurent et qui ont du chagrin. Le pain de la délivrance et de la bénédiction. Avant de terminer, je voudrais simplement tourner la page dans l'évangile de Jean au chapitre 6, parce que je pense qu'il est important que nous nous souvions de ce que Jésus nous a dit, parce que même si j'ai parlé de l'Ancien Testament, j'ai parlé du Nouveau, mais je voudrais aussi rappeler les éléments essentiels finalement, eh bien, de l'évangile, quand il nous est dit cette parole dans Jean chapitre 6, j'y suis, verset 35, il est dit ceci, « Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, vous vous rendez compte? Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et un peu plus loin, si nous voulons passer au verset 48, il est rappelé ces paroles tout simplement, « Je suis le pain de vie. » Répète Jésus, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Vous savez que nous avons la vie éternelle. Lorsque nous prenons le repas de Sainte-Seine, nous avons tout à nouveau eh bien, un renouvellement de vie pour l'éternité. Je voudrais le dire et avec une certaine tristesse. Mais malheureusement, ceux qui devraient l'entendre ne sont pas là. Ça c'est dommage, mais vous êtes là. Je voudrais quand même le dire pour que vous puissiez prier pour nos frères et sœurs. Ceux qui négligent le culte, ceux qui se disent « moi j'ai autre chose, voilà, je ne juge pas et je condamne pas hein. ». On pourrait multiplier toutes sortes d'activités qui viennent dépasser finalement la priorité que nous pouvons donner à Dieu. Mais je le répète, mes frères et sœurs, le repas de Sainte-Seine, je l'ai dit, c'est le pain des forts. Et lorsque nous nous privons finalement de ce moment ô combien essentiel, ultime, qui a coûté si cher à Jésus, ben, nous ne pouvons pas grandir. Nous ne pouvons pas croire. Le levain ne peut pas se développer dans la pâte. C'est pas possible. Nous ne pouvons que régresser spirituellement. Le dimanche matin, c'est quelque chose d'important parce que nous prenons la Sainte Seine. En souvenir de Jésus, nous invoquons son nom, nous le bénissons, nous l'adorons pour son sacrifice, pour sa mort à la croix. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Vous voulez grandir, vous voulez vous développer, vous voulez être un ambassadeur du royaume de Dieu. Eh bien, écoutez, vous avez toute la nourriture qui est nécessaire. Parce que derrière, il y a un principe invisible dans le repas de Sainte-Seine qui finalement, eh bien, nous amène non pas à décroître, mais à croître spirituellement, moralement et dans tous les domaines. C'est-à-dire, hein, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui mange de ce pain ne meurt pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Que je donnerai pour la vie du monde, pas seulement pour les chrétiens, mais aussi pour la vie du monde. Le royaume des cieux est semblable à du levain, qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à que toute la pâte soit levée. Les chrétiens que nous sommes, à l'image de cette femme, sommes-nous de ceux qui mettons le levain dans la pâte? Imprégnons, intégrons la levure divine de la foi dans la masse du monde pour que celui qui se lève, puisse se lever, appelé, inspiré, tout simplement par Jésus et par le Saint-Esprit. Je finis. C'est une petite note que j'ajoute. Le levain est un petit mot dans une petite parabole, vous avez remarqué? Pas grand-chose, hein? Un verset, tout simplement, qui décrit le principe de croissance essentiel dans le royaume de Dieu. En réalité, personne ne peut s'enorgueillir de ses propres capacités à étendre le royaume de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Je peux dire, j'ai gagné tant d'âmes, j'ai fait ceci. Dieu m'a appelé à faire ceci et cela, et c'est moi qui les ai gagnés. Alors là, on se trompe, mais alors sur toute la ligne. Je dirais même que finalement, c'est même un danger, hein. Non, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit. Seule l'action de la vie que Dieu y apporte donnera des fruits. Et même l'œuvre de Dieu se jugera avec des fruits. Non pas avec des résultats de quantité, 10 000 personnes converties par mon ministère. Et on laisse ça de côté. Ça n'a rien à voir. À l'image du levain, dont on ne voit plus la trace finalement, eh bien, lorsqu'il est mélangé à la pâte, le fruit ou les fruits de notre engagement ne sont pas forcément visibles et reconnus. Mais ils n'en gardent pas moins leur valeur. Et avec une dernière parole de l'apôtre Paul, dans Corinthiens, je voudrais simplement sceller ce message quand Paul dit ceci, parce que nous sommes appelés à travailler, nous sommes appelés à être le levain, le sel, la lumière du monde. Paul dira ceci, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Que Dieu nous bénisse, ne perdons pas courage, demandons à Dieu qu'il fasse de chacun d'entre nous, eh bien, comme on pourrait dire, des boulangers et des boulangères, si vous voulez, mais que véritablement il y ait de la levure, il y ait du levain dans la pâte. Et là, à ce moment-là, le Seigneur est encore d'eux et sera véritablement, eh bien, glorifié à travers des âmes qui seront sauvées. Que Dieu nous bénisse, on va prier quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le levain qui est jeté dans la pâte de l'humanité. Il a d'abord été jeté dans notre vie, dans cette pâte qui était inerte parce que nous n'avions pas la vie en nous. Nous n'avions pas la vie en Christ, nous n'avions pas la vie en Dieu. Nous étions encore comme le pain qui est bien là et sans levain, le levain du péché. Oui, Seigneur, mais tu as voulu véritablement, Père éternel, que les choses changent. Et aujourd'hui, Seigneur, celui qui peut nous donner d'être ce que tu désires que nous soyons, que celui qui désire que nous fassions ce que toi, ta volonté a décrété pour chacun d'entre nous, et bien qu'il en soit ainsi, Seigneur, dans ta bonté, dans ta fidélité, tu nous appelles non pas à une décroissance, mais tu nous appelles à une croissance. Une croissance non pas tant physique, mais une croissance morale, une croissance spirituelle, parce que le levain de Dieu aura levé. Et nous permettrons à d'autres, en effet, et bien là, de pouvoir comprendre et entendre ton appel. Merci, Seigneur, pour ta bonté, ta fidélité. Bénis-nous ce matin. Parce que je crois qu'au-delà de ta parole, il y a le levain de Dieu qui se manifeste déjà dans nos cœurs, invisible c'est vrai, mais qui est réel. Et nous t'en bénissons dans le nom de Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.